Alors donc cette conférence s'appelle Work in Progress. On va parler des blogs, des Twitter, etc. et de toutes les nouvelles manières de communiquer sur Internet. Il y a des gens qui parlent, il y a même un nouveau métier qui s'appelle Community Manager. Je l'ai appris il y a deux jours, alors dès que je peux le ressortir, je trouve ça formidable. Donc du coup nous avons une table ronde avec des gens qui font des blogs, qui tweetent aussi. Parfois, ils ont même plusieurs blogs, parfois, ils ont des sites internet. Parfois, leur site internet est complètement abandonné au profit d'un autre. Et puis nous avons même un grand site de l'imaginaire qui, peut-être, a aussi son blog. Donc, il nous racontera un petit peu tout ça. Donc, je vais vous présenter nos intervenants. Donc, complètement à droite, Maya Mazaret. Parce qu'avant, on disait Maya Mazaret, mais bon, maintenant, il faut le dire avec un accent anglais. Voilà. Qui a un blog qui s'appelle Sex Actu, qui a un site personnel aussi, avec notamment les livres qu'elle fait, et elle vient de sortir, le guide du râteau.
Oh ouais, ça date un peu, mais...
Ouais, mais elle sort des livres.
Ouais. Voilà.
Plein. Donc voilà, dont des osés, ils ont trouvé que osés à la libre. Osés les rencontres sur Internet. Ça tombe bien quand même pour notre conférence. Hein. Maya. Voilà. Mélanie Fazi, complètement à ma gauche. Alors Mélanie, auteur, qui est traductrice aussi, pardon, qui a un blog, qui a un site, qui n'a pas de Twitter.
Pas de Twitter, j'ai Facebook, mais pas de Twitter.
Oh là là, pas de Twitter. je rigole. Parmi ses livres, il y a Notre-Dame des Écailles, il y a Arlise et Forain, et le dernier, c'est Calate. Voilà. Et elle est aussi donc traductrice. Donc vous pouvez la rencontrer derrière des livres d'auteurs anglo-saxons. Ça serait comment rien dire ma phrase. Enfin bon, bref. Un autre traducteur, c'est la fin de la journée. Hein, faut peut-être faire plus de blagues que de poser de questions. Donc à ma droite, Lionel Davou, qui est traducteur, qui est aussi auteur. Nous citerons L'importance de ton regard. C'est son livre, hein, pas, c'est parce que moi je le dis. Qui a un site, qui a un blog et qui a un Twitter, et lui, il tient tout à jour. Et à ma gauche, je suis très content de l'avoir avec nous, car c'est sa première table ronde. Il s'appelle Emmanuel. Je propose qu'on nous dise tous bonjour Emmanuel.
Bonjour Emmanuel.
Voilà. Ça te met bien à l'aise. Hein.
Merci, merci.
Donc, Emmanuel Chastelière, qui est traducteur et qui est derrière le site internet qui s'appelle Elbakin et qui vous offre de l'information sur de la fantasy tous les jours. Et qui, en plus, oui, c'est lui, et qui en plus a un Twitter et un blog, Elbakin, mais lui n'a pas de site personnel, par exemple. Oh, bah oui, oh, quand même. Donc, on va pouvoir lui demander. Je suis content de l'avoir parce que c'est rare. Voilà, c'est un homme rare. Donc, il existe en vrai, en chair et en os. Voilà. Donc, l'idée un petit peu de tout ça, c'est de voir comment on utilise ces nouvelles technologies et pourquoi est-ce qu'on fait un blog et pourquoi est-ce qu'on fait un Twitter, les différences et par rapport à un site internet personnel. Parce que si vous vous souvenez bien, il y a 10 ans, les gens avaient des sites internet perso. Et oui.
Avec des livres d'or,
ouais.
Donc, des gifs animés.
Mais des gifs animés, exactement. Vous vous souvenez de la petite boîte aux lettres qui tourne pour marquer ouais. Qu'on peut envoyer un mail. Et ben maintenant, ils ont des blogs.
Donc, et on peut commenter.
Et on peut mettre des commentaires. Voilà. Des posts, c'est ça?
Non.
Des coms? Lâche tes coms.
Lâche tes
coms. Lâche tes coms. Alors, on va demander d'abord à Mélanie. Mélanie qui a donc un blog, un site qui est mort, et voilà. En fait, pourquoi avoir choisi de faire un blog et pourquoi avoir un petit peu abandonné justement ton site internet perso?
Alors, désolée. Le site, ça fait un petit moment que j'y pense en me disant effectivement je vais le reprendre à un moment donné. Et l'abandon du site correspond à peu près au moment où j'ai créé un blog, donc je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a 3 ans, quand j'ai sorti Notre-Dame aux Écailles, qui était mon dernier livre en date, j'avais décidé que j'allais mettre des choses très régulièrement sur mon site, et j'avais une page avec des photos, toutes les signatures, j'avais toutes les interviews, tout. Le problème, c'est que ça demande une énergie monstre, et c'est quasiment un boulot, peut-être pas à temps plein, mais à temps partiel. Donc j'ai abandonné ça en partie par manque de temps, Et parce qu'ensuite, il y a eu le blog, il y a eu Facebook, dont j'ai bien aimé le côté plus immédiat. Le site a quelque chose de vraiment très très structuré, c'est très pratique comme base de données. En fait, j'ai ma bibliographie, j'ai du contenu, c'est ma carte de visite. Mais finalement, il n'y a pas ce côté plus interactif qu'on peut avoir, que j'ai découvert. En fait, moi, le blog m'a plu parce que... Il y a ce côté professionnel, j'annonce mes actus, il y a tout ça. Et c'est aussi un espace où je peux me permettre de poster sur autre chose. Tiens, j'ai vu tel film, ça m'intéresse. Ou en essayant de pas trop rentrer dans du personnel qui intéressera personne. Parce que j'aime bien, en tant que lectrice, moi, des blogs qui vont... Enfin, notamment des blogs d'artistes, de musiciens, d'auteurs ou autres, qui vont réussir à mélanger ça. C'est le côté complètement professionnel. J'annonce mon actu et j'ai ce côté très pro. Et en même temps, je vous raconte... Pas forcément je vous raconte ma vie, mais je vous raconte ma vision du monde. Et il y a une manière particulière de parler des choses et même du quotidien. Et j'ai vraiment une passion pour ça, en fait. Et j'ajouterais que le blog et Facebook ont un côté que j'ai découvert... Enfin, je disais tout à l'heure à Lionel, je pense qu'il a eu la même expérience. Je viens de signer la 2 heures. En 1 heure, j'ai eu 5 personnes différentes qui sont venues me voir, qui sont des contacts Facebook que je n'avais jamais rencontrés en vrai, qui sont des lecteurs qui m'avaient donc contacté, que je connaissais pas encore. Et en même temps, j'avais un peu l'impression de connaître parce que je l'ai situé. Et c'est quelque chose que je trouve de génial. On n'avait pas sur un site, on n'avait pas ce côté, ce côté interactif. Pour moi, c'est complètement ça. Et je trouve qu'il y a un vrai bouillonnement que je trouve passionnant en ce moment.
Ça veut dire que les amis qu'on a sur Facebook sont des vrais gens, en fait.
Il y a des vrais gens. On s'aperçoit qu'il y a des fois ils sont à la photo, des fois non. Il y en a quelques-uns ici.
Je reste avec toi. Tu dis que à la fois tu mets pas de choses personnelles ou privées, et en même temps. Sur ton blog, tu parles à la fois de musique et parfois de choses aussi personnelles, en mélangeant aussi ton actualité littéraire.
J'ai pas dit que je parlais pas de choses personnelles, c'est qu'il y a une limite à placer. Mais c'est quelque chose que je trouve intéressant comme exercice, même dans les blogs des autres, c'est qu'à partir du moment où tu commences à raconter, on raconte sa vie ou on raconte des choses, qu'est-ce qu'on va montrer, qu'est-ce qu'on va pas montrer, comment on le raconte surtout. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement de dire j'ai vu tel film ou tiens aujourd'hui j'ai fait tel truc, c'est quel est le regard. Quelle est la manière de le dire, qu'est-ce que ça apporte. Et moi, je vais sur des blogs, pas tellement pour un contenu ou pour un thème, mais parce que j'aime la personne qui fait le blog, et quelle est la manière dont il va présenter cette chose-là. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé ce côté un petit peu journal intime, mais en même temps pas trop. Enfin, c'est un exercice que je trouve intéressant.
Ouais, on va parler pas mal des limites, parce que c'est peut-être ce qui est le plus intéressant pour le coup. Oui, les limites avec Maya, oui, on parlait aussi. Lionel, c'est un peu le... Tu es un peu dans le même cas que Mélanie. Quelle différence tu fais entre ton site, où tu parles essentiellement d'actu littéraire, ton blog, où tu parles aussi de ton actu littéraire, mais pas que?
Alors en fait, moi j'ai longtemps eu... Est-ce que ça marche ce truc? 1, 2...
Est-ce que vous entendez Lionel?
Vous m'entendez? Bon, je vais parler plus fort.
Non.
Ou pas. Alors en fait, moi j'ai eu un moment le site d'un côté et le blog de l'autre, parce que effectivement je faisais un peu cette différence. Je disais bon, le site il faut que ce soit sérieux parce que c'est professionnel, il faut surtout pas que j'ai l'air de raconter des conneries, sinon ça va être terrible. Et puis le blog où effectivement je racontais n'importe quoi, et puis je me suis rendu compte qu'en fait le site n'intéressait strictement personne et que les conneries que j'avais racontées étaient beaucoup plus drôles et que les gens suivaient le blog et le site, tout le monde s'en foutait. J'ai fini par me dire que ça n'avait pas grand sens en fait de séparer les deux, puisque il n'y avait pas un versant professionnel, sérieux, austère, et le versant backstage qui raconte n'importe quoi. Ça a coïncidé plus ou moins aussi avec le fait, j'avais le blog sur Overblog, qui au fur et à mesure d'une maison sympathique et gratuite est devenue une maison gratuite et pas sympathique, qui au fur et à mesure demandait le sang du premier né pour continuer à raconter des conneries. Donc j'ai fini par dire que non. Donc j'ai fusionné les deux. Et en fait, le site fonctionne, donc tout est sur le même endroit maintenant, d'une part parce que c'est beaucoup plus simple à tenir, et puis qu'en plus, fallait que j'assume le fait que je racontais n'importe quoi. Donc j'ai mis les deux ensemble, quoi qu'il y a quand même plus sur le site, effectivement, un versant, on va dire plus. Parce que je pense qu'en fait, les gens qui viennent sur le site d'un auteur, il y a effectivement les gens qui ont... envie d'interagir, donc avec le côté des blogs, avec le côté réseau social, qui ont envie de lire les bêtises qu'on a à raconter et les articles où on se lâche un peu, où on raconte des trucs plus perso, comme disait Mélanie, ou juste juste envie de raconter des trucs qui nous passent par la tête ou des coups de gueule qu'on peut avoir aussi. Je pense qu'il y a ça, et je pense qu'il y a quand même une grande partie aussi des gens qui n'ont pas le temps ou ni l'envie de suivre un blog, de suivre une timeline Twitter, de se mettre sur les réseaux sociaux. et qui finalement ont juste envie, et c'est tout aussi respectable, qui veulent pas savoir quel est le type qui a écrit les bouquins et qui veut juste voir ce qu'il y a à raconter sur les bouquins et qui veut juste s'intéresser à ça. Et donc voilà, le site essaie de répondre un peu à ces deux choses. Donc il y a le blog d'un côté, le blog en fait, c'est le blog inclut l'actu, mais beaucoup de bêtises aussi. Et puis après il y a le côté purement professionnel où si on n'a pas envie de s'ennuyer avec le blog, et je comprends parfaitement ça, on peut juste savoir c'est qui ce type, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a écrit, ok merci, ça me suffit.
On va passer la parole à Maya en lui posant à peu près la même question. Tu as un site, un blog qui s'appelle Sex Actu, tu as un site internet où tu présentes plus le côté littérature, et en même temps, par exemple sur ton blog, tu ne vas pas du tout parler musique ou des choses de ta vie plus personnelle, entre guillemets, quoi.
Oui, c'est un peu un cas particulier parce que ça fait assez longtemps que je suis professionnalisée un peu comme blogueuse. C'est-à-dire que là, en plus, maintenant, mon site Sexactu, donc qui parle de sexe, a été racheté en plus. Mais avant, j'avais déjà travaillé comme blogueuse pro pour trois boîtes différentes. Donc j'ai un rapport avec l'outil blog qui est pas... qui est plus aussi innocent. Quand j'ai commencé sur des vieux sites tout pourris où il n'y avait pas de plateforme de blog, sur Multimania, paix à son âme. Donc voilà, c'est un peu différent, et donc il y a beaucoup de choses que je raconte pas, donc ça a l'air très perso, mais en fait ça n'est pas tant que ça, notamment pour quelque chose qui est censé parler de ma vie sexuelle. Je dis jamais que même depuis 10 ans, parce que j'ai commencé, depuis 9 ans, j'ai commencé en 2002, et en fait, je parle toujours de la même personne, qui n'est pas du tout la même personne, donc il y a quand même pas mal de choses que je m'interdis de dire, parce que en fait, j'ai aussi commencé en ayant la conviction profonde que ma vie, les gens s'en foutent, ma vraie vie, qui est très ennuyeuse, qui n'est pas non plus, je suis écrivain, je ne suis pas cascadeuse, quoi. Et donc j'ai pris l'habitude de romancer ma vie et donc de raconter n'importe quoi dans une certaine mesure. Et pour le reste, effectivement, j'ai un site un peu plus pro pour parler des livres sur lequel personne ne va jamais. Parce que pour faire ça, en fait, il y a une page Wikipédia. Donc ça sert à rien du tout, il faut que j'arrête. Voilà.
Arrêtez aussi, perso. Petite question à Emmanuel, qui est le seul de cette table à ne pas avoir de blog. Et pourquoi ? Pourquoi j'ai pas de blog ? Parce que déjà, ça intéresserait personne. Ensuite, le site comedybiking.net prend quand même beaucoup de temps. Donc justement, on fait un peu... Pour ceux qui justement n'ont pas forcément le temps ou l'envie de notamment suivre l'actualité de tous les auteurs... de tous les styles de fantasy, etc. On est un peu là justement pour faire la passerelle, donc suivre leur actualité pour la proposer aux visiteurs le cas échéant, si ça les intéresse, selon les actualités justement. Il faut voir qu'il y a 10 ans justement, nous aussi, quand on faisait ces recherches sous Lycos, Facebook...
Il y avait de chiens sur la Publico, ça.
Oui. YouTube ou Twitter, bon forcément ça n'existait pas du tout, donc c'était un peu des recherches archéologiques, on va dire, puisque les auteurs n'avaient pas forcément non plus tant de ça de site perso, en tout cas on va dire professionnalisé entre guillemets. Donc c'était un peu la pêche aux infos, mais ça exige toujours beaucoup de temps aujourd'hui, vu que justement quand il faut suivre des dizaines de pages, etc., c'est vite chronophage.
Et alors, sur Elbakine, il y a un blog ?
Non. Enfin, il y avait un blog, mais on s'est recentré sur Facebook et Twitter.
Alors, pourquoi pas de blog sur Elbakine ?
En fait, le blog, au départ, était lancé pour suivre l'actualité de l'association, donc en parallèle du site. Forcément, c'est un peu moins soutenu qu'un site qu'on met à jour au quotidien. Donc de fait, petit à petit, étant très pris par autre chose, on s'est un peu laissé aller, on va dire. Et en fait, on s'est recentré sur Facebook, parce que justement, ça a décollé aussi. Donc on avait plus de facilité à toucher des gens. Et justement,
quelque chose que Facebook brise, en fait, c'est par exemple sur un site, nous, par exemple, sur notre forum, on a plus de 4000 inscrits. Donc c'est vrai que même si les 4000 ne postent pas, sinon le travail de modération serait un vrai sacerdoce. Mais en fait, justement, les gens, au bout d'un moment, n'osent pas forcément, plus forcément s'inscrire, oui, mais pas forcément sauter le pas de poster. Parce que forcément, un forum, il y a des habitués. Donc, parfois, les gens ont l'impression d'être un peu exclus, ou alors qu'il y a des private jokes qu'ils ne comprennent pas. Enfin, voilà, ce genre de trucs. Puis, même quand on arrive, on sait pas forcément... c'est un peu énorme, quoi. Donc, on ne sait pas forcément comment faire, où se présenter, comment aborder les sujets. Alors que Facebook, en fait, on est directement au contact du site, quoi. C'est la page directement du site. Il n'y a pas l'interface forum... Souvent, c'est nominatif, donc on a vraiment l'impression de parler avec les gens qui font le site directement si on veut s'adresser à eux. Donc, ça évite aussi ce genre de désagrément quand on a vu qu'il y avait un contact plus direct. Et puis, évidemment, au niveau de l'audience, Facebook étant une plateforme qui a vraiment décollé depuis 3-4 ans maintenant, on se devait d'y être aussi, quoi.
Justement, Facebook, la différence entre un blog et Facebook sur ce que vous mettez, Mélanie, par exemple.
Il y a une différence déjà de brièveté, j'ai envie de dire, parce que Facebook, c'est quand même, c'est un intitulé rapide, c'est un côté beaucoup plus immédiat. Le blog, c'est beaucoup plus rapide qu'un site, comme j'ai dit tout à l'heure, mais faut quand même se poser au minimum une demi-heure pour rédiger le truc. Finalement, ça prend quand même pas mal de temps. Il y a aussi quelque chose dont je me suis aperçue avec Facebook, c'est que quand on poste une information, si on poste un lien par exemple pour, une dédicace ou le programme des Imaginales par exemple, puisque je l'ai posté, les gens peuvent le partager immédiatement. Ils ne vont pas recopier l'info et aller la poster ailleurs. Ils ont juste à cliquer sur partager et ils transmettent à tout leur réseau. Et il y a une rapidité de transmission des informations qui est assez impressionnante depuis Facebook justement.
Et en même temps, est-ce que tu ne mets pas un petit peu plus de choses qui te sont personnelles ou du moins de ton quotidien sur Facebook que tu ne mettrais pas sur ton blog ?
Je dirais que la partie raconter des conneries dont parlait Lionel tout à l'heure, moi je vais le faire plus sur Facebook. Je l'ai dit, je vais aussi sur son blog pour lire ses conneries. Donc ça marche qu'il veut aussi. Je sais pas. Par contre, je me suis posé la question sur Facebook, parce que des collègues le font, d'avoir une séparation entre un compte perso et un compte pro. Parce qu'il y a un moment où on est suivi par des gens qui sont la famille, les amis, des gens qui sont juste des lecteurs, des gens qu'on connaît, qu'on connaît pas. Il y a des moments où je me pose la question, qu'est-ce que je poste ou qu'est-ce que je poste pas. J'ai envie de m'adresser à tel sous-groupe, en fait, des gens qui me suivent, mais ça va être lu aussi par les autres. Donc il y a tout le temps, je m'oblige en permanence à me rappeler que c'est suivi par c'est suivi par la famille, par des gens qui me connaissent, qui me connaissent pas, par... Il y a tout ce côté-là, en fait. Mmh. Et je me pose la question de faire une séparation ou pas, effectivement, depuis un moment.
Mmh. Lionel, pareil, comment tu utilises ton Facebook ?
Alors, déjà, les services comme Facebook et Twitter, en fait, dont les trucs, si on est un peu technique, en fait, on appelle ça des services de microblogging, en fait. C'est-à-dire que c'est extrêmement proche dans l'esprit, en tout cas pour moi, en tout cas ce que ça permet, d'un service de blog. En gros, simplement, effectivement, comme dit Mélanie, c'est beaucoup plus court. Donc, effectivement, il y a un côté partage de trucs. Tiens, j'ai vu une vidéo qui m'a fait marrer. Tiens, j'ai un truc à raconter qui m'énerve et qui tient juste en une ligne. Au fond, c'est quand même un peu, pour moi, des choses qui sont proches. C'est-à-dire que le blog... En fait, finalement, un blog, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le type qui le tient, qui dit « Hey, j'ai un truc marrant à te raconter, regarde. » Après, c'est au lecteur de décider si ça le fait marrer ou pas. Et la formulation, le tour qu'on prend, va finalement, c'est la personnalité de l'auteur qui transparaît derrière, et après, on trouve que l'auteur est marrant ou pas, et on revient pas. Ou alors, on s'intéresse à la personne qui fait le blog, parce que par ailleurs, il écrit des bouquins qu'on a appréciés, et donc on a envie de développer un peu plus la relation avec la personne qui est derrière le bouquin. Mais tout ça, derrière, c'est un petit peu le même état d'esprit pour moi. C'est-à-dire, c'est la même chose. C'est pourquoi on suit la timeline Twitter de quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on regarde le mur Facebook de quelqu'un, et pourquoi on suit le blog de quelqu'un, parce que derrière, quelque part, cette personne-là a une personnalité qui m'intéresse, elle a des trucs qui vont me faire marrer, et donc j'ai envie de regarder ce que cette personne-là a à dire. Donc, je fais pas vraiment de moins en moins de différence entre le ton et ce que je raconte sur le blog, le site ou Twitter, mais plus en fait des choses qui sont adaptées ou pas aux médias. Donc Twitter par exemple est un médium extrêmement volatile. Donc on vous pardonne beaucoup plus, disons, un coup de gueule ou un jugement à l'emporte-pièce ou même un aphorisme bête et méchant, parce que c'est rigolo des fois d'être bête et méchant, sur Twitter que sur Facebook et encore moins sur un blog, parce que ce sont, par ordre, des médiums, on va dire, de plus en plus permanents et de moins en moins volatiles. Mais au fond, c'est la même chose. C'est on partage voilà, ce qui nous amuse sur l'instant, un lien qui nous a amusé, un article qui nous a fait réagir, etc. Puis on espère que voilà, les gens qui suivent, ça va les amuser, ça va les intéresser, ou ce genre de choses. Donc c'est une entreprise un peu égocentrique, en fait, quelque part. Hein. C'est je sais pas, c'est peut-être parce qu'on n'a pas les moyens d'ériger des statues à notre gloire, donc on les dirige nous-mêmes avec des électrons. Non,
c'est beau.
Merci.
Il est auteur.
Maya, c'est un peu la même question. La différence entre ton Facebook et ton blog?
Non, mais en plus, c'est encore plus compliqué que ça, en fait. Parce qu'au début, j'avais un Facebook ouvert à tout le monde, un espèce de profil public. Et donc, du coup, ça veut dire que quand j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passe dans ta vie à toi, je pouvais plus, parce qu'il y a tellement d'informations que ça en devient absurde. Donc j'ai arrêté, j'ai tout repris à zéro. Donc j'ai un compte perso qui est limité à 100 personnes. Ce qui fait que si je veux rajouter un ami, il faut que j'en enlève un autre. mais en attendant, je rate jamais un truc. Enfin voilà, c'est des gens que j'aime assez pour que, comme Lionel, savoir que s'il a vendu une pomme, ça m'intéresse, vraiment. et voilà, et comme ça, c'est vrai que c'est complètement artificiel, mais donc il n'y a pas plus de 200 personnes dont je suis vraiment la vie. Et par contre, je lis tout. Et après, j'ai fait une page publique où là, par contre, il y a tous les lecteurs qui peuvent venir, qui voient ce qui se passe sur le blog. Je rajoute un peu des conneries, effectivement, parce qu'on peut. Mais c'est assez invasif quand même, parce qu'eux, ils peuvent poster sur la page. Donc, des fois, ils mettent de la pub pour leur truc à eux. Donc, enfin, c'est assez rapidement, en fait, il faut faire un petit peu de surveillance. Sinon, je me retrouve avec des clubs de striptease qui sur ma page, mettent n'oubliez pas d'aller voir mon show ce soir. Pardon. J'ai Twitter aussi, dont je m'occupe jamais, mais pour une raison absolument incompréhensible, alors que je l'ai dit au lecteur, bah, j'ai quand même 4000 personnes qui me suivent sur Twitter, alors qu'il n'y a rien de plus que sur le blog. Et voilà, le blog pour tout le reste. Donc en fait, voilà, c'est démultiplié entre plein d'avatars, et puis j'arrive à pas être trop schizophrène au milieu de tout ça, donc ça va.
Oui, ça va.
Oui, ça va. Ça se passe bien. Mais ça demande une vraie volonté, en fait, de pas déborder. Parce que si on laisse faire, c'est un piège, en fait, ces trucs-là. Mm. C'est pas que la communication horizontale absolument formidable, c'est aussi des gens qui aiment les et notamment, en fait, moi, ça m'a mis plusieurs fois d'avoir des gens qui se créent des comptes à mon nom. Donc au bout d'un moment, j'ai récupéré plusieurs mails à ma place, des gens qui m'ont arrêté très spontanément les choses quand je leur ai demandé, qui m'ont dit « Ah, je voulais juste savoir ce que ça faisait, quel genre de mail on recevait si on était toi. » J'ai aussi des gens qui recopient mon blog intégralement tous les jours ailleurs, sans mettre mon nom. Il y a quand même, sur lesquelles il faut faire un petit peu attention.
Qui est Maya Mazoret dans la salle?
un peu plus sérieusement, je disais en rigolant tout à l'heure que effectivement faire un blog, c'est une entreprise un peu égocentrique, comme écrire, parce que simplement ça veut dire j'ai un truc à raconter qui me fait rire, puis je vais partir du principe que ça va peut-être intéresser des gens. Je pense que on fait surtout ça parce que ces entreprises, c'est rigolo à la base. Ça offre une liberté, comme on parlait beaucoup de poster des conneries, mais parce que il y a un côté informel sur Facebook, sur Twitter, sur le blog. Peu importe quelque part si on est suivi par 10 ou 10 000 personnes, je pense que c'est ça qui finalement est marrant pour nous en tant que blogueurs. C'est juste parce que c'est drôle. Et que ce soit suivi ou pas, moi, peu importe les statistiques que j'ai, je le fais simplement et avant tout parce que ça me fait rire. Donc, moi, comme j'aime bien faire les trucs qui me font rire, voilà.
officiel, ça.
Ouais, c'est ça.
Alors, c'est Maya me glisse, je le dis pour l'enregistrement. Maya me glisse dans mon oreille, c'est parce que c'est la version officielle. Alors, c'est une question compliquée. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup dire. C'est vrai je vois un peu. On voit un petit peu des auteurs qui. Des auteurs un peu plus jeunes que soi. Parce que je n'ai pas la prétention d'être très très lourd, très
expérimenté. Ouais, tu te souviens de Lycos, quoi.
Hein ?
Tu te souviens de Lycos ?
Je me souviens de Lycos, voilà. Ouais. Je me souviens d'un foussique, des fichiers MIDI qui se déclenchaient tout seuls quand on allait sur la page. C'est vrai qu'il y a une espèce de la présence, enfin, alors les grands mots, la présence sur Internet, c'est un truc un petit peu compliqué, un petit peu piégeux. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui, des fois, arrivent, qui se disent « Je vais être sur Internet, et d'un seul coup, je vais exister ». Rien n'est plus faux que ça. Ouvrir sa page Facebook, ouvrir son blog, ouvrir son site, ça ressemble un petit peu en fait à écrire un truc sur un mur et puis à partir en imaginant que les gens vont le lire et que ça va les intéresser. C'est absolument pas ça. C'est pas parce qu'un jour on ouvre un site que d'un seul coup on va devenir. Alors effectivement, on a l'esprit un peu pourri par toutes les success stories qui arrivent. Ah, machin était sur Internet, il a ouvert une page Facebook et d'un seul coup il a vendu 200 000 exemplaires. Ça arrive. Mais bon, c'est rare.
Ouais, et en même temps, où commence, comment vous servez de vos sites, où commence pas la commercialisation, mais l'utilisation professionnelle de ce que vous en faites. Quelle est la différence? Enfin, est-ce que votre Facebook et votre blog, c'est aussi une manière, quelque part, de temps en temps, de vous promouvoir?
Moi, j'ai tendance à considérer que je, quel que soit le nombre de lecteurs, je m'interdirai jamais de traiter ce qui m'amuse, parce que c'est pour ça que je le fais. Et alors, c'est un exercice un petit peu schizophrène, parce que je pense que pour que les lecteurs qui vont sur un blog, ils cherchent de la sincérité. Donc, en un sens, c'est un exercice un petit peu bizarre, ne pas chercher à avoir des lecteurs sur un blog, c'est le meilleur moyen quelque part d'en avoir. Moi, je considère mon blog, c'est comme un bar. Donc voilà. Alors comme j'ai dû mettre récemment une politique de modération des commentaires, donc c'est un bar tenu par un barman légèrement psychopathe à Pierruana qui a un fusil à canoncier planqué sous le bar, qui est souriant, mais qui de temps en temps faut pas venir l'emmerder avec les commentaires parce qu'il est prêt à sortir le fusil. Plus prosaïquement, c'est un bar. Donc en gros, on vient dans le bar si on aime l'ambiance, si on aime la musique, si on aime ce que le type sert. Et c'est ça qui est sympa. Donc évidemment, de temps en temps, il faut payer le loyer. Donc il arrive de temps en temps que le barman dise « Est-ce que vous voulez revoir un truc ?» Voilà. Mais pas, pour moi, pas plus. Moi, je déteste, en tant que lecteur, je déteste avoir le côté commercial à mort d'un blog. C'est pas ce que je cherche. Donc j'essaie simplement de faire le blog qui m'amuse, parce que je me dis que si ça m'amuse moi, il y a des chances que ça amuse des gens. Mais c'est pas le but premier.
En fait, l'idée, c'est... vous avez tous des Facebook, des blogs, et parfois des Twitter. C'est une question vicieuse, mais cherche un petit peu la limite entre le côté personnel avec papa-maman, le côté mais un petit peu de démarche, parce que j'ai des contacts pro sur mon Facebook, et du coup, quand je raconte un truc, à la fois je vais faire rire les potes, et en même temps je vais glisser une date de dédicace. Je dis pas que c'est mal, hein. Attention, hein, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, mais où est votre limite sur Facebook entre le privé et le professionnel, sur Facebook ou sur votre blog?
Sur Facebook et sur le blog, effectivement, c'est un peu différent pour ça. Moi, ce que je constate sur mon blog, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui vont sur ce blog viennent au départ chercher des actus. Ils viennent chercher si je fais des signatures ou des choses qui sont liées à mes bouquins. Et souvent, ils restent pour le reste, finalement. Des gens qui sont venus pour chercher ces infos me disent « Ah, j'aime bien ta façon de parler de musique, j'aime bien quand tu poses des photos. » Et finalement, ils s'intéressent à d'autres sujets, donc je continue aussi parce que je sais qu'il y a une... Enfin, je peux pas dire une demande, c'est exagéré, mais j'ai des réactions sur ça, les gens, ils viennent aussi pour ça. Donc sur un post de blog, j'ai tendance à essayer d'équilibrer, Je fais souvent un post avec deux choses à la fois, par exemple. Je vais annoncer des signatures et je vais parler de musique, ou j'essaie de trouver un équilibre sur tout ça. Sur Facebook, effectivement, ça va plus vite partir sur des choses un peu plus privées, et encore... je dirais qu'il y a un piège qui est de se dire à partir du moment où il y a des il y a des paramètres, confidentialité, tout ça, donc on est entre nous. Moi, je pars jamais de ce principe, c'est si je marque une chose sur Facebook, même ultra privée, je considère qu'elle peut être lue par tout le monde, n'importe qui y a accès, donc je ne mets pas de choses que je ne voudrais pas, je ne mets rien que je considère comme trop privé pour être partagé.
Après, je sais pas, c'est beaucoup au cas par cas, et en fonction aussi beaucoup des retours qu'on a sur un sujet ou l'autre. Récemment, j'ai beaucoup parlé de jeux vidéo, parce que je sais que j'ai beaucoup de contacts qui réagissent sur ça, par exemple. C'est assez interactif.
Moi, je pense qu'on est tous payés ici pour raconter des histoires. Et là, je pars du principe que le blog, dans un certain sens, Facebook, Twitter, etc., c'est aussi, Maya en parlait tout à l'heure, c'est aussi du racontage d'histoires. On parlait un peu sur j'ai tendance à dire chez moi, parce que j'aime pas dire sur mon blog, ça fait... Enfin, on parlait chez moi, donc, récemment, de questions d'anonymat sur Internet, et justement, à quel point on s'expose. Je pense que, comme moi, je m'amuse, je choisis les sujets et je les tourne d'une façon qui me fait marrer. Donc l'autre jour, j'ai fait un article en racontant que j'ai acheté un porte-manteau chez Habitat.
J'ai lu, intéressant.
Franchement, c'est super.
Et je crois que tu as mangé une pomme.
Voilà, et j'ai mangé une pomme. J'en ai fait une page et demie parce que ça m'a énervé, parce que la façon dont ça s'est passé m'a énervé. Bref, j'en ai fait une histoire. Et c'est ça qui est rigolo dans l'exercice du blog. C'est qu'effectivement, les faits s'arrêtent là. J'ai acheté un porte-manteau chez Habitat et le carton m'a scié les mains. Voilà. Mais après, j'ai fait une page et demie avec ça. Et moi, en tant que mec qui raconte des histoires, c'est ça qui est drôle. Et c'est ça le côté. Donc je fais... Il y avait un invité d'Imagina l'année dernière qui disait « Faut jamais raconter sur Internet. Faut se comporter sur Internet comme si un jour, on pouvait penser que sa mère pourrait tomber dessus. » Donc je pense que c'est une bonne règle à observer. Et donc voilà, un blog, un site, Facebook, un Twitter, c'est un reflet de soi. De la même manière que une histoire qu'on raconte, un bouquin, est aussi un reflet, un traitement de ce que l'auteur est. C'est juste un peu plus proche de la vérité. Mais je pense que l'auteur est dans les creux. La véritable personne, elle est dans les creux, elle est justement dans ce qu'elle cache et dans ce qu'elle veut pas dire, parce que à côté de trucs qu'on veut justement pas forcément partager avec le monde entier, parce qu'on a des trucs qu'on veut pas forcément. Je pense que c'est très intéressant ce que tu disais avec le fait que tu parles toujours du même boyfriend, mais sauf que voilà, c'est l'exemple même de ça, je pense, c'est qu'il y a du storytelling derrière et je pense que d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est drôle de toute façon, c'est que si on dit bah, salut aujourd'hui j'ai acheté un porte-manteau chez Habitat, ça m'a scié les mains, tout le monde s'en fout quoi. Par contre ce qui est drôle c'est l'histoire qu'on en tire et c'est le métier qu'on fait, donc raconter des histoires avec sa vie aussi quelque part, c'est un peu ça le blogging, je pense.
Oui, alors donc moi sur le Facebook, problème résolu puisque les éditeurs pour lesquels je travaille sont tricards dessus puisque j'ai que 100 personnes, donc de toute façon je peux pas. Effectivement, comme je peux me plaindre et tout, genre ouais, il n'est pas à l'heure. Donc toutes les personnes de mon réseau professionnel sont exclues d'office. Comme ça c'est facile et c'est tranquille. Et sur mon blog, là c'est encore un petit peu particulier, c'est-à-dire que comme je parle de sexe absolument tous les jours, mais c'est aussi mon métier. C'est-à-dire que je suis, pour exactement les mêmes articles que je publierais ailleurs, je serais payée. Et donc c'est du travail que je fais gratuitement pour le plaisir des gens tous les jours. Donc quand ensuite, une fois de temps en temps, ce qui ne doit pas dépasser une fois tous les 6 mois, je sors un livre et que je dis « Bonjour, j'ai sorti un livre ». Et qu'on vient me dire que je suis vraiment une grosse pourriture qui vient faire d'autopromotion sur un blog si je gardais ces articles et que je les vendais à la place, me rapporterait un énorme, enfin pas un énorme salaire, mais me rapporterait pas mal de thunes, je suis un petit peu estomaquée en fait. D'où en fait le même scénario de bar que chez toi, qui est que si dans les commentaires j'entends un truc comme ça, alors que j'estime voilà, vraiment fournir un travail gratuitement parce que j'aime les gens, je vais être très énervée tout de suite. Ouais. Je bosse quoi, enfin je me lève le matin, je fais mon blog tous les jours. Si je peux pas dire que je sors un livre, c'est dur, c'est vraiment dur. Et il y a toujours des gens pour dire ouais, vraiment, sale capitaliste, t'es trop méchante. Ah. Je suis énervée là.
puisque tous autour de cette table nous sommes assez vieux. Vous surtout, pour vous souvenir de Nico, c'est de Caramel. Qu'est-ce que. Ouais, Caramel, ça fait un petit bout de temps que je me la garde celle-là.
Minitel.
Minitel. Ouais.
Minitel aussi.
Et que à l'époque peut-être de Caramel, vous commenciez déjà à traduire un petit peu.
Qui a utilisé Netscape dans la salle La vache, si peu.
Vous avez le droit de vous dénoncer les autres. Est-ce qu'il y a une différence de langue entre Twitter et les blogs, Lionel?
Oui, pour la bonne et simple raison que Twitter est limité à 140 caractères, de toute façon. Donc, en 140 caractères, il faut réussir à faire passer ce qu'on veut dire de façon à la plus claire possible pour pas que ça puisse être pris dans un autre sens. Donc, alors qu'un blog, par nature, c'est un billet, un article d'entrée. Donc, faire un article de blog en 140 caractères, ça n'a pas grand sens. Donc, un article de blog, ça doit au moins de faire quelques paragraphes. Donc, par essence, et puis comme on se refuse à faire du langage SMS sur Twitter, parce que bon, sinon en plus c'est triché, par essence, le blog s'insère plus dans la durée. En plus, un blog, il est archivé sur une page. Donc quelqu'un qui vient sur votre blog, il peut voir ce que vous avez raconté, même il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an. Alors que si vous êtes inscrit sur Twitter, et en général pour suivre les gens, il faut être inscrit sur Twitter, vous en fait, question bête. Tout le monde sait ce que c'est que Twitter ou pas? Oui, non? Qui sait ce que c'est? Oui, ouais, ok. Donc quand vous êtes inscrit Twitter et que vous suivez les gens, les mises à jour Twitter s'empilent au fur et à mesure. Et comme, si vous suivez plein de gens, vous êtes intéressé par tout ce qu'ils ont raconté, mais évidemment on n'est pas sur Twitter en permanence, donc on voit que les dernières entrées. Donc de toute façon, Twitter c'est proche de la parole ou proche de la conversation qu'on aurait sur une journée en croisant quelqu'un dans la rue, c'est un média qui s'envole. Donc de fait, ça fonctionne pas de la même manière, effectivement. C'est, le blog est plus réfléchi en général, on met plus entre guillemets du contenu. Moi je mets beaucoup d'articles sur la technique d'écriture, par exemple, c'est un peu le même, à échelle bien moindre, hein, mais c'est un peu le même esprit, où en gros, j'essaie de mettre sur le site les articles d'écriture que j'aurais aimé trouver quand j'ai commencé et que j'ai pas trouvé. J'ai trouvé chez les Américains. Donc oui, c'est pas le même genre du tout de façon de gérer le même la temporalité de l'écrit.
C'est vraiment beau, hein, ce qu'il dit. Manu, donc toi aussi tu es assez vieux pour avoir connu Netscape. Désolé. Mais quand toi qui suis un petit peu l'actualité pour la redonner sur Elbakin, comment les auteurs utilisent le blog, qu'est-ce que ça a changé? Blog, Twitter et Facebook.
Je dirais que la communication est justement, comme on l'a déjà dit, beaucoup plus directe. Et que les auteurs n'hésitent pas justement à partager aussi d'autres choses qui n'ont pas. N'est pas directement de lien avec leur actualité littéraire, on va dire. Et chez certains, si on prend les blogs de Neil Gaiman ou Fabrice Collin, c'est presque parfois des œuvres en soi, quoi, presque des romans. Donc ça a vraiment apporté. C'est comme si on avait une espèce de bonus en fait, en plus de ce dont on peut profiter dans leur roman. C'est une porte ouverte, une fenêtre entrebâillée.
Je vais m'arrêter là aussi. Hein.
sur tout un pan de leur personnalité ou de leur œuvre auquel on n'avait pas accès avant, quoi. Mais au niveau de Twitter aussi, non?
Ouais.
Oui. Bah, c'est vrai que à ce niveau aussi, c'est un peu, comme disait Lionel, c'est beaucoup plus volatile. Donc c'est vrai que c'est une discussion vraiment presque à bâton rompu. Si on arrive dans la conversation, on peut interpeller quelqu'un, avoir sa réponse dans la minute. Si avant il fallait contacter quelqu'un pour un mail, bon, ça pouvait prendre un certain temps, on va dire, s'il y avait une destination. Et puis au niveau de Twitter, c'est vrai que pour un site comme le nôtre, c'est un peu comme une cour de récréation, on va dire. On est un peu moins sérieux que ce qu'on peut être au niveau du traitement de l'actualité. On n'hésite pas à poster des liens à la con, mais ça se dit pas. Comme les pastèques qui explosent en Chine, en disant que si l'explication était magique, ça serait plus écologique que les pesticides. Ce genre de truc.
Faut pas se moquer des liens à la con. Internet tout entier a été bâti. Faut pas se moquer des liens à la con. Internet tout entier a été bâti sur des liens à la con.
Ah, mais je suis bien d'accord, on en poste plus souvent qu'à notre tour. Mais c'est vrai que ce qu'on voulait éviter, est-ce que ce qui se retrouve aussi chez les auteurs, notamment par exemple Twitter, c'est éviter que ce soit un simple flux RSS, par exemple, d'actualité. Parce que si c'est pour reposter les mêmes liens qu'on poste sur son blog ou sur un site d'actualité, il n'y a peut-être pas de plus-value, quoi. Donc après, les gens qui sont directement abonnés peuvent aussi y avoir accès par là, mais c'est peut-être se priver de quelque chose de plus à offrir.
Et alors, en termes d'infos, puisque du coup tu vas sur les blogs des auteurs, les Facebook et les Twitter, qu'il y a donc des choses personnelles, où est-ce que tu situes la limite des informations dont tu vas parler sur Alibakil?
C'est assez simple.
Est-ce que tu es le voici de l'imaginaire?
Alors,
ou Bibard, enfin, je sais pas.
Je laisserai ça à d'autres. Hein. Mais je ne parle pas avec USM. En fait, c'est très simple. Si on reprend l'exemple de Nick Gaiman que je citais, on va pas faire de bref sur le site pour annoncer qu'il s'est remarié, par exemple. Alors qu'il en parle sur son blog abondamment, on va dire.
Parce que c'est un remariage ou...
Ah, je comprends pourquoi tu citais Voici. Oui, c'était un mariage. Mais oui, voilà, c'est le genre de choses. C'est pas que... Enfin, à lire, ça peut être intéressant, parce qu'il n'en parle pas d'une manière voyeuriste, on va dire. Mais on n'a pas de... ça apporte rien si nous on faisait une news là-dessus, quoi. Je veux dire, pour les lecteurs qui sont intéressés par la fantasy en tant que telle, ou l'imaginaire en général, je pense pas que ça les concerne directement.
Peut-être qu'ils aimeraient. Sauf qu'en l'occurrence...
Sur le micro.
Sauf qu'en l'occurrence, dans ce cas particulier, son épouse est une musicienne qui s'appelle Amanda Palmer, qui tient aussi un blog. Pour moi, c'est un peu mon modèle de la personne, enfin ce que disait Lionel, la manière de raconter les histoires, elle peut raconter n'importe quelle connerie qui lui arrivait dans la journée, ça devient épique. Et c'est amusant de se dire, c'est pas juste Neil Gaiman s'est remarié, il s'est marié à quelqu'un qui a un imaginaire aussi barré sinon plus que le sien. C'est le seul truc où je me dis ça peut être intéressant, ça fait le lien entre deux univers créatifs. Mais c'est un peu un sujet. Ouais,
je pense que dans cette histoire de blog, de site et tout, etc., à la base, ce qui unit tout le monde, lecteur comme auteur, finalement, c'est l'amour de la chose écrite et l'amour des histoires. Et je pense que, pour rebondir là-dessus, je pense que c'est surtout ça qui intéresse les auteurs, parce qu'ils aiment ça, sinon ils font autre chose, et les lecteurs, parce que s'ils veulent voir des histoires. Effectivement, tu parles d'Amanda Palmer, elle veut voir la façon dont elle va tourner ces choses écrites. On veut voir du... Enfin, on va dire du contenu consistant quelque part, quoi. Même un tweet, pour en parler tout à l'heure, ou même un statut Facebook, peut devenir une histoire à part entière. L'ancêtre de Twitter, quelque part, c'est le haïku japonais. Non, mais sérieux, sérieux.
Jacques Chirac sort de ce
pas. C'est 140 caractères, on peut faire une histoire. Les japonais faisaient du poème en trois vers extrêmement court, et il y a des véritables sur Twitter, et j'en fais certainement pas partie, mais il y a des maîtres. S'il y a quelqu'un qui est sur Twitter, jetez un œil à Bad Banana, je sais ce nom est débile, mais ce type est incroyable. Il fait une véritable histoire on est mort de rire, et il fait ça en 140 caractères. C'est un américain, il faut comprendre l'anglais, mais voilà, il y a une véritable forme de narration possible là-dedans, et c'est ça qui, je pense, est intéressant là-dedans.
Parce que je crois que Bigard a Twitter, mais c'est moins drôle.
Non, pour en revenir au côté voici, moi je pense qu'il ne faut pas. Désincarner en fait complètement les livres. Je pense que les lecteurs sont quand même assez curieux de savoir qui on est, ce qui nécessite qu'on ne dise pas forcément toujours la vérité. Non, mais qu'il y a une vraie demande et que sur un salon comme celui-ci, on peut le voir pas mal. Bon, je vais citer Sir Cédric ou alors Michel Robert, leur lectrice, puisque c'est manifestement pas mal de filles. Il y a quand même manifestement quelque chose de l'ordre de la fascination pour la personne. Si c'est pas de l'admiration, si c'est pas un espèce d'érotisme, enfin, on sait bien quand même que la figure de l'écrivain, depuis Bukowski notamment, c'est
voilà, il y a quand même un attrait pour la personne, et que du coup, avec les blogs, on a la chance de peut-être se retrouver plongé dans l'intimité, et que peut-être du coup faire un voici des auteurs de la fantasy. Ça nous intéresse ça, parce que finalement, non, mais quelqu'un comme Welbeck, il est dans voici, et puis lui, il a vraiment pas de vie. Donc imaginons avec des auteurs de l'imaginaire dont on sait très bien ce qui se passe dans les chambres d'hôtel le soir ici.
Moi, je peux vraiment pas faire ça, t'as vu la gueule que j'ai.
Justement.
Si mon mec y arrive.
Alors. C'est gentil de pas avoir cité quelqu'un d'ici. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous serez capable de poser des questions en 140 caractères?
C'est quoi le nom du Dr. Nana, il est en chute, je crois. Je reconnais qu'il est.
Ouais. Tous ici, vous êtes assez présents en ligne, vous avez Twitter, Facebook, tout ça. Est-ce que, selon vous, est-ce que les auteurs d'imaginaire ou les auteurs en général se doivent d'avoir une présence en ligne? Est-ce que c'est utile, voire nécessaire? Ou est-ce que c'est pas à la limite anachronique d'être un auteur de science-fiction aujourd'hui et d'être ni sur Twitter, ni sur Facebook, ni sur rien du tout?
Non, c'est impossible. Non, je pense qu'on peut effectivement complètement s'en passer. Et d'autant que faut pas se voiler la face. Le temps qu'on passe à updater des blogs, des Facebook, c'est un temps qu'on passe pas à écrire des livres. Ouais. Donc c'est moins de production littéraire, à mon avis. Ensuite, voilà, c'est une question de choix. Je pense absolument pas que ce soit nécessaire. Il y a plein de gens comme Marc Lévy. Non mais moi je suis dans la référence la totale, attention. Welbeck, Marc Lévy. il y a des auteurs qui répondent jamais à une interview. Mais ça ne les empêche pas de vendre des tonnes de livres. Alors j'imagine que s'il y a des gens qui se passent de passer à la télé aux 20h de TF1, ils peuvent se passer d'avoir un Twitter.
Ouais, mais parce qu'ils vendent déjà avant. Parce que, un auteur d'imaginaire qui refuserait toute interview, je ne suis pas sûr que ça lui fasse vendre plus que ça.
Pour l'instant, on n'a pas encore connu beaucoup de succès de gens qui auraient été connus parce qu'ils étaient sur Internet. Ouais. C'est tout. Pour l'instant, c'est tout. D'abord, ensuite, les gens me suivent.
Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle?
Oui, je trouve que vous êtes tous très calés dans les matières Internet et j'ai l'impression que vous informez énormément de ce que font les autres. Petite question, est-ce que vous disposez par exemple d'un outil comme NetVibes qui vient de sortir et qui vous permet de suivre les actualités des autres super vite juste en vous connectant? Est-ce que vous connaissez?
NetVibes est assez ancien à mon sens.
Pour moi, c'est tout nouveau.
Mais je trouve que ça cache une vraie question, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup dire que, effectivement, même si on n'est pas tout à fait d'accord, je suis assez d'accord avec toi, que pour être un auteur, il faut absolument être sur Internet. Moi, j'aurais effectivement envie de modérer un peu ça. Il y a effectivement toute une technicité derrière, et même pour les auteurs qui veulent ouvrir des blogs, des sites et tout, etc., il faut avoir une certaine compétence technique. Et je dirais même, il faut avoir une certaine expérience culturelle de ce qu'est le net, et de comment ça marche, de ce qu'est sa culture, et pour éviter tout simplement des impairs. Parce que c'est très facile d'être de mal comprendre l'outil et de s'en servir d'une façon qui limite et contre-productive. Donc il y a toute une culture, il y a un tas d'usages, même si c'est un truc qui est assez récent au terme de l'histoire humaine, c'est un truc qui va très très vite et il y a une histoire très riche là-dedans. Alors, je pense qu'on pourrait tous répondre à ça, mais moi oui, effectivement, je suis... Oui, moi je fonctionne avec Google Reader, mais oui, je pense qu'on quand on est sur les blogs, de toute façon on suit beaucoup ce qui se fait ailleurs en fonction de nos...
Non, ou alors on a des amis qui peuvent faire des sites pour nous. Mais effectivement, si on ne connaît pas la culture Internet, on se retrouve face à des fois des choses qui paraissent très naïves quand on est sur Internet tout le temps. Et ça peut arriver à des gens très bien parce que Michel Onfray avait créé son blog sur Nouvelle Obs, si j'ai bonne mémoire, et au bout de quelques mois, il a arrêté parce qu'il n'avait pas compris comment ça marchait et il ne supportait pas les commentaires. C'est quand même un tout petit peu dommage. Et le fait qu'effectivement quelqu'un puisse effectivement prendre un morceau, le sortir du contexte, le reposter ailleurs et tout. Et il était parti en
cacahuète.
En claquant la porte et en disant Internet c'est pas bien et tout. Ensuite il y a peut-être une affaire générationnelle qui est que pour les gens un peu plus jeunes que nous, on appelle ça les natives de l'internet, c'est-à-dire ouais. qu'ils ont grandi dedans, donc de toute façon, eux, ils sont complètement... voilà, la génération Y. Et donc, effectivement, eux, ils ne peuvent pas faire d'impair parce qu'ils ont grandi dedans, et ça se joue à quelques années, et nous, pour lesquels il y a eu un apprentissage parfois douloureux. Enfin, si je peux donner une anecdote complètement terrible, moi j'ai été initiée à Caramel, donc qui était un truc de chat, par un stagiaire à France 3 pour qui je bossais à l'époque, qui avait 19 ans. Il m'explique, voilà, tu crées ton pseudo, ensuite tu peux chatter et tout. Donc évidemment, je vais sur des trucs de sexe, tout de suite. Et en fait, il m'a piégé, la personne avec qui je discutais, avec qui je racontais ma vie, c'était lui. Et donc 2 heures plus tard, il vient me voir, il me dit, bon, voilà, genre Julien du 64, avec qui tu parles de tes fantasmes, c'est moi, donc il faut juste pas que tu fasses ça. Et c'était ma première leçon d'internet, mais sans doute la plus utile que j'ai eue de ma vie, surtout ce que je produis comme littérature après. Et en fait, il y a des erreurs, mais que n'importe qui ferait, même aujourd'hui, très très facilement, donc effectivement, il faut savoir.
Une question.
Au niveau des commentaires, justement, est-ce que vous modérez a priori ou a posteriori, et pourquoi? Et comment vous gérez les trolls?
Alors, à la hache, toujours. Non, a posteriori, parce que a priori... non, mais en fait, il y a un apprentissage qui se crée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une dynamique qui est que si la première personne, ou si dans les 3 premiers commentaires, il y en a un qui dit... qui dit quelque chose comme ouais, enfin, excuse-moi, ton blog, je pourrais le tenir, c'est juste parce que t'es une fille, tu mets des jupes, que moi aussi, il va avoir un blog qui parle de sexe. S'il y en a un dans les 3 premiers, en fait, ça ouvre les vannes pour le reste. Donc, en fait, il faut modérer quelque chose comme les 10 premiers commentaires, et ensuite, en fait, les gens ont une conversation normale. Donc, finalement, c'est assez simple. Et au début, j'avais beaucoup de réticence à sabrer les commentaires. Au point que j'en étais arrivée sur mon premier blog à avoir assez facilement 50% de commentaires insultants, mais quand je dis insultants, c'est tu devrais mourir du sida, c'est des choses comme ça. Donc si on laisse faire, en fait, ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc c'est juste que les gens ne nous laissent pas le choix. Moi. Enfin, du coup, maintenant, c'est assez rare que j'ai à modérer, ça doit m'arriver une fois tous les 2 mois que j'enlève un commentaire. Mais parce qu'en fait, une communauté, c'est pas que ça s'éduque, c'est que ça se crée dans la bonne humeur. Mais c'est pas donné comme ça.
Oui, ben j'ai la chance d'avoir quand même une communauté super sur le blog avec des gens hyper réfléchis qui font parfois des tartines plus longues que les billets auxquels ils répondent. Donc je me sens très humble à côté de ça. Effectivement, faire un blog, je le fais pour mon plaisir, mais aussi j'essaie quand même de rendre un peu à la communauté en faisant des articles d'écriture, en faisant des trucs un peu de fond, quoi. Je suis pas juste là pour raconter que j'ai acheté un porte-manteau chez Habitat. J'ai pas non plus, donc ça prend du temps, mais c'est le temps que je prends pour le plaisir, mais aussi pour donner ça à la communauté. J'ai pas non plus le temps m'amuser à modérer avec des pincettes. Donc moi je suis sur internet depuis avant même l'existence de 4chan, pour ceux qui connaissent. J'ai traîné sur 4chan, donc je vais la refaire, hein, mais ma règle de modération est simple, behave en GTFO, pour ceux qui connaissent. Oui. Donc en gros, c'est je suis tout à fait pas. Voilà, effectivement la contradiction est bienvenue, justement c'est ça qui génère le débat. Par contre, comme je dis, je suis un tenancier de bar, mais je suis un tenancier de bar mexicain avec un fusil à canoncier dessous le comptoir. Donc en gros, effectivement, comme dit Maya, j'ai une communauté toute petite, donc en gros, c'est toujours pareil, un groupe plus petit, c'est des gens qui se connaissent souvent d'ailleurs IRL, donc c'est qui se sont rencontrés, donc c'est plus facile. Mais je suis assez libre sur la modération, en gros, je laisse beaucoup la bride, mais par contre, j'ai des règles de modération claires et les écarts, je recadre extrêmement vite. Et j'en ai très peu à recadrer, mais quand je le fais, je fais pas semblant. Et du coup, tout se passe bien.
Alors, juste une petite réaction.
Alors, vite, parce qu'on est déjà en retard.
Oui. Vite. C'était juste pour citer l'exemple des forums, donc dans le genre communauté. Parce que là, nous aussi, par exemple, sur Alekin, on a beaucoup eu ce genre de problème avec les trolls à l'époque du Seigneur des Anneaux au cinéma. Parce qu'il y a des grands débats entre les puristes qui restent fidèles au texte de Tolkien, mais vraiment à la virgule près, et les autres. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, justement de montrer
enfin de faire savoir quelle est l'ambiance du forum, parce qu'il y a vraiment des gens qui veulent pas comprendre, quoi, mais qui mettent de la mauvaise volonté, donc avec l'expérience aidant, on finit par ne plus poser la question et trancher dans le vif si besoin, parce que sinon c'est les gens qui sont là pour échanger, qui en pâtissent, donc au bout d'un moment, il faut bien sévir un petit peu.
Eh bien, merci beaucoup, on est arrivé à la fin. Juste une annonce, les gens qui ont laissé leurs pantalons séchés, il va falloir récupérer un moment. Ouais. Je ne voudrais pas porter ces pantalons-là. Merci à tous.